L'écho des savanes apparaît en 72, fondé par trois auteurs qui étaient surtout actifs dans Pilote, à savoir Claire Bretéché, Marcel Gottlieb et Nikita Mandrika. Donc ils sont partis de Pilote, qui est une revue qui était évidemment extrêmement novatrice, qui était un peu cet aiguillage entre le classicisme à la Tintin Spirou et puis les revues qui sont apparues par la suite, qui cette fois-ci visait très clairement un lectorat adulte et puis commençait à aborder des questions un peu différentes, même si elles étaient déjà sous-jacentes dans Pilote. Mais dans l'esprit de Goscinny, en tout cas, donc, qui était le rédacteur en chef de Pilote, il y avait certains sujets qui étaient difficiles d'exprimer. Évidemment, tout ce qui avait trait à la sexualité, voire même aux drogues, à la scatologie. Ces trois auteurs vont quitter le navire Pilote, c'est une des premières dissidences qu'il y aura. D'autres suivront par la suite. Il semblerait d'ailleurs que Goscinny avait assez mal pris la chose. Lui qui avait créé comme ça un espace de liberté quand même assez fabuleux pour ses auteurs, mais voilà, se retrouvait aussi avec certaines limites. Il y avait toujours la volonté de continuer à faire de cette revue quelque chose de présentable, de propre sur elle, comme on dirait en Belgique. Donc ça apparaît en 72, comme je le disais. Il crée pour l'occasion une société qui s'appelle les Éditions du Fromage. Ce serait un peu anachronique de parler d'éditeurs indépendants ou alternatifs, mais enfin, c'est quand même un peu cet esprit-là, dans la mesure où c'est vraiment une maison d'édition qui est montée de toutes pièces par ses auteurs, sans financement d'un groupe éditorial extérieur ou que sais-je encore. Cette philosophie un peu do it yourself est très influencée évidemment par ce qui s'est passé aux États-Unis quelques années auparavant. C'était le fameux mouvement underground qui émerge à la fin des années 60, hein, où les auteurs commencent à s'auto-publier. L'exemple le plus connu étant le fameux Zap de Robert Crumb, Crumb qu'on va, comme par hasard, retrouver dans l'écho des savanes. Donc on retrouve vraiment une espèce de vision, de version française de l'underground américain, aussi bien dans la manière de concevoir cette publication, donc avec cette idée d'auto-édition, d'indépendance, et à la fois dans les contenus aussi, puisque les grandes thématiques de l'underground, on va les retrouver ici. Peut-être pas tout ce qui a trait aux substances hallucinogènes, etc., qui était, c'est vrai, très présente dans la bande dessinée américaine, ne sont pas tellement ici. Par contre, tout ce qui a trait à la sexualité et à la critique sans phare et tabou de la société va réapparaître ici. Gottlieb donc était déjà devenu une des figures de proue du journal Pilote, donc on peut penser effectivement que pour Goscinny, ça a été difficile de le voir partir, d'autant qu'il a été longtemps son scénariste. Et on retrouve là-bas, chez Gottlieb, cette espèce d'hystérie graphique, en quelque sorte. Il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement perpétuel, où il dessine plusieurs bras à son personnage, etc. Un lointain ancêtre de Disney terriblement perverti. Ceci dit, pour les avoir relus récemment, je trouve que c'est peut-être un des trucs qui a le plus mal vieilli dans l'écho des savanes. Sans évidemment jouer au vieux Tartuffe, le fait de pouvoir allègrement parler de sexe, c'est évidemment une jouissance délectable et ce n'est pas condamnable, mais on sent un peu l'espèce de gamin qui peut enfin sortir ce qui ne pouvait pas sortir. On sent une volonté de montrer des bites, des anus, et des nichons et des vulves, et parfois ça va pas tellement plus loin. Enfin, j'ai encore relu aujourd'hui une histoire là où il rencontre tous des personnages Blanche-Neige qui se fait tringler par les sept nains. Enfin bon, ouais, ok. Et puis donc il y a Claire Bretéché qui est vraiment dans cette espèce de radiographie de la société française, de l'évolution des mœurs qu'on retrouvera plus tard dans Les Frustrés, qui est sa création la plus connu. Il y est question de féminisme, il y est question de libération sexuelle, enfin on sent vraiment une belle inscription là dans l'air du temps, avec un dessin à la relecture comme ça qui est assez remarquable de synthèse et extrêmement élégant, qui doit pas mal à un dessinateur américain comme Jules Feiffer par exemple, avec quelque chose peut-être de plus souple, de plus aérien. Et puis Nikita Mandrika qui est vraiment dans un travail presque psychanalytique. Alors dans le premier numéro, il y a réapparaît là le concombre masqué qui était déjà apparu dans Vaillant. Alors vraiment une histoire de quelques pages qui est assez exceptionnelle en fait, où le concombre masqué installe un potager et finit par faire pousser des rochers et il s'assied pour les regarder pousser. Avec sans doute là aussi le lointain souvenir du Crazy Cat de George Herriman, puisqu'on est là aussi dans un désert, on est aussi dans une espèce de tradition, du nonsense. Et puis il y a des récits, des espèces de choses qui semblent relever d'une sorte de journal intime plus ou moins codé. Je pense que c'est dans le premier ou dans le deuxième numéro, il y a l'histoire de moi, si je me souviens bien du titres. Donc il y avait quand même là une dimension autobiographique, même si ce n'est pas de l'autobiographie au premier degré, comme on la verra arrivant en masse dans les années 90. Mais il y a très clairement, et finalement chez les trois auteurs, quand même la volonté d'avoir un propos plus individualisé. Assez expérimental aussi. Il y a beaucoup, en tout cas dans les premiers numéros, une très grande souplesse sur le plan graphique, par exemple, quelqu'un comme Mandrika passe de registres très très différents. On sent vraiment là une très très grande liberté, une absence de contraintes qui est liée aussi au fait qu'on devrait s'inscrire dans une série, etc. Enfin, chaque histoire, qu'elle soit courte ou plus ou moins longue, est toujours une nouvelle aventure. Tout ça dans une présentation, couverture couleur, mais contenu des pages en noir et blanc, un peu à l'image de ce qu'on trouvait dans les comics underground américains. Très vite, c'est Mandrika qui est crédité comme rédacteur en chef. Dès 1974, on voit apparaître d'autres auteurs que le Triumvirat qui avait fondé la revue, avec des choses extrêmement intéressantes, puisque c'est là qu'on va trouver Cauchemar Bande Moebius, hein, qui est donc un récit, je pense, qui historiquement est assez important aussi, qui relate un fait divers raciste, mais enfin une ratonnade en fait, qui sur le plan graphique est tout à fait étonnante. Là aussi, on est déjà dans une réinvention du média qui donnera plus tard le garage hermétique. On voit Mass, qui est quand même cette grande figure honteusement méconnue, quoique là on commence à retrouver pas mal de choses, mais on a de nouveau, on est dans cette logique du nonsense, d'univers régi par leurs propres règles, mais il y a quand même là aussi une critique sociale qui est très très présente. Ça peut paraître paradoxal, mais critique sociale et nonsense font souvent mon ménage, avec un dessin extrêmement dense, hein, qui ressemble presque à de la gravure, à de l'eau forte, avec énormément de texte. Enfin, le pauvre, on l'a qualifié d'auteur difficile, mais enfin, c'était surtout des lecteurs paresseux qui ont sans doute dit ça. On voit un truc assez génial qui est complètement oublié, je pense, aujourd'hui, qui est l'Homo Lando de Jacques Loeb. Loeb qui est surtout connu comme scénariste, comme dessinateur, il est dans quelque chose qui apparaît comme ça très laborieux, là où il essaie de dessiner des jeunes femmes assez sculpturales, corsetées, etc., avec une évidence maladresse, mais bon, finalement, ces femmes sont quand même excitantes. Enfin, l'Homo Lando, le personnage principal, c'est Jacques Loeb lui-même, avec sa grosse moustache, qui vit perpétuellement dans un landau, qui attire comme ça l'affection de toutes les créatures féminines qui tournent autour de lui, genre de machin qu'il faudrait rééditer d'urgence. Pétillon qui arrive avec le premier Jack Palmer, mais qui sont très loin de l'espèce de minimalisme graphique qu'on connaît. Au contraire, là, c'est vraiment une espèce d'horreur du vide. De nouveau, on est dans ce registre du nonsense. Et puis, Kurtzman va être traduit là-dedans. Wallace Wood, qui était très présent dans Mad, va être traduit lui aussi. Puis on va trouver les grandes figures de l'underground américain. Donc c'est vraiment dans l'écho des savanes que Crumb va être présent quasiment tous les trimestres, puisqu'au départ il est trimestriel, et puis tous les mois lorsqu'il viendra mensuel, ou Gilbert Shelton avec le chat de Fat Freddy. Enfin, c'est deux des grandes figures de ce mouvement-là. Gottlieb et Bretéché vont quitter l'écho des savanes finalement assez tôt. En 75, Gottlieb s'en va créer Fouille Glaciale, quelque chose d'assez proche de ce qu'il faisait dans l'écho des savanes, hein, c'est vraiment la continuité directe, avec toujours cette thématique sexualité joyeusement débridée, scatologie et absurde. Et Claire Bretéché part à la même époque, et puis on va la retrouver dans le Nouvel Observateur, où elle créera les frustrés qui lui amèneront le succès qu'on sait. Alors, il y a encore une étape qui est peut-être importante, c'est 77, il y a un numéro sur la couverture duquel il est écrit Punk, point d'interrogation, et qui marque l'arrivée de Bazooka, donc qui est ce collectif qui se situe entre les arts graphiques et la bande dessinée. Enfin, quoique la bande dessinée, c'est un art graphique après tout, enfin bon, soit. Mais dans une déstructuration, en tout cas, du langage de la bande dessinée, et qui est très différent de l'esprit du départ, hein, de Gottlieb, Bretéché, Mandrika, et où on avait vraiment l'impression d'une volonté de casser les barrières, de faire sauter toutes les digues, et cracher une bonne dose de mauvais goût à la figure de cette société conservatrice. Ici, on est dans la mise à distance, je veux dire, la rupture a déjà eu lieu, c'est symptomatique, hein. Bazooka proclamait que tout ce qui avait été fait avant eux, c'était de la merde, sauf Hergé, donc on sent bien ce que ça va être provocateur aussi par rapport surtout à toute la génération de l'après 68 qui considérait qu'Hergé était un vieux réactionnaire. Ça amène autre chose dans la revue, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu les derniers feux de l'écho des savanes. On voit apparaître Telé un petit peu dans cet esprit-là aussi, et puis de plus en plus du rédactionnel qui commence à parler des modes, qui parle de la musique, Alain Pacadis par exemple, hein, qui était un des journalistes qui avait beaucoup écrit sur l'avènement du punk et de la new wave. C'est symptomatique évidemment. Donc la revue s'arrête en 82, les éditions du Fromage n'existent plus, et le catalogue est repris par Albin Michel, et ça devient une revue de fesses. dans lesquels on traite souvent de l'actualité, mais où de plus en plus cette volonté de ne rater aucune des grandes modes parisiennes du moment commence à devenir de plus en plus insupportable. Où la bande dessinée d'ailleurs a de moins en moins d'importance. Et puis oui, le fameux striptease des copines, où les lecteurs étaient censés envoyer des polaroïdes avec leurs copines qui se voient à poil. Sauf qu'il paraît qu'en même temps, c'était même pas des lecteurs qui envoyaient ça, c'était des filles qui étaient payées pour le faire. Enfin, soit, c'est super intéressant. Tout ça pour montrer qu'à partir du moment où Albin Michel, qui fait partie du groupe Lagardère, qui est quand même une saloperie de marchand d'armes, bon, bah voilà, c'est en train de se dé... On arrive en pleine déliquescence. Et je faisais un peu cette remarque-là par rapport à Charlie, mais c'est vrai que les années 80, pour ces revues qui avaient été extrêmement excitantes à la fin des années 60 ou au début des années 70... Ben voilà, dans les années 80, rentre dans le rang, et puis c'est les gros groupes financiers qui mettent la main sur ces revues qui étaient au départ créées dans cette espèce de nécessité d'énergie faite par des auteurs. Et voilà, c'est fini, quoi.